Et justement, nous sommes en compagnie de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À la suite de ce que Frédéric XVI vient de dire, des mots comme « libérer les énergies », les propos du président de la République hier qui était assez dur, « je veux un état d'ordre, pas d'examen en chocolat », on a l'impression finalement que le macronisme n'aime pas les perdants, que pour ceux qui n'ont pas d'énergie, pour les étudiants qui se sont mal orientés, il n'y a pas véritablement de seconde chance, d'écoute, ou en tout cas de possibilités réelles, Frédéric Vidal.
Alors c'est intéressant que vous abordiez justement cette question de deuxième chance, parce que évidemment, là encore, hein, ce que j'ai pu constater, mais c'est très largement partagé, c'est que lorsque l'on met un étudiant face à un parcours qui est un tube, effectivement, il réussit ou il échoue dans ce parcours. Et ce que permet la loi, c'est maintenant de mettre un étudiant face à un choix. Alors évidemment, pas tout seul, évidemment accompagné par des enseignants et des enseignants-chercheurs, de manière à ce que justement, il puisse, la première année, avoir plus de matière et puis se spécialiser progressivement tout au long de sa licence. Donc c'est exactement l'inverse, hein. C'est donner plus à ceux qui ont besoin de plus, et c'est évidemment aussi reconnaître ceux qui donnent cela.
C'est-à-dire que concrètement, si je n'ai pas l'affectation de mon choix à la rentrée prochaine, ou si Frédéric XVI ne l'a pas, après tout...
Si ça y est, c'est validé, j'ai regardé.
Est-ce que nous aurons une seconde chance? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous nous proposerez, Frédéric Vidal?
Alors, une fois de plus, hein, les jeunes ont émis plusieurs choix. Donc maintenant, notre objectif, nous, c'est qu'ils soient acceptés dans l'un de leurs choix. Et c'est vraiment l'objectif fondamental.
C'est un objectif ou une obligation?
De toute cette réforme. Voilà, si je vous dis 100%, vous trouverez toujours peut-être un étudiant pour lequel ça n'a pas fonctionné.
C'est-à-dire que chaque personne aura, dans la mesure de l'impossible, parce que si
absolument.
Vous dites que...
Dans la mesure de l'impossible,
donc
c'est une jolie formule.
Ces 10 choix, l'un de ces choix qui sera exaucé.
Absolument, et l'idée c'est que s'il n'a fait que des choix de filières sélectives, ce qui est évidemment possible, il soit contacté, et dans le cas où il n'aurait pas ses choix sélectifs, il soit contacté par le recteur et qu'une commission puisse travailler à lui faire des propositions qui ressemblent à ce qu'il a souhaité,
par exemple,
à ce qu'il a mis dans ses vœux. Par exemple, on peut imaginer un bachelier qui aurait mis des BTS et des IUT dans le domaine des sciences informatiques. Il est refusé dans les BTS et dans les IUT qu'il a souhaité faire. Soit on trouve un BTS ou un IUT auquel il n'a pas pensé ou auquel il n'a pas candidaté, on lui propose évidemment dans un périmètre géographique comparable. Soit on discute avec lui, et si on se rend compte que par exemple il voulait passer par un IUT pour continuer sur un diplôme d'ingénieur, eh bien on lui explique que il peut intégrer une licence qui pourra lui donner les mêmes chances d'aller vers cette école d'ingénieur. Et ça, c'est évidemment des choses qui seront faites au cas par cas. Et ces commissions, elles commencent à se réunir dès le 22 mai, dès le début des réponses, de manière à ce qu'on soit en accompagnement le plus possible. On remet le jeune au centre, en fait. Et au lieu de lui dire, voilà... un programme de licence, c'est ça, tu rentres dedans, tu réussis tant mieux, tu échoues, eh bien tant pis. Ce qu'on dit, c'est pour aller vers cette licence, tu peux avoir plusieurs chemins. Tu peux prendre des majeurs, tu peux prendre des mineurs, tu peux avoir plus de stages, tu peux souhaiter avoir des formations qui vont te permettre d'avoir des doubles licences. Donc c'est vraiment une révolution en termes de souplesse de ce premier cycle. Et là encore, on le voit bien, certains jeunes vont avoir plus de facilité à rentrer par le savoir-faire. D'autres vont aimer les choses beaucoup plus conceptuelles, beaucoup plus théoriques. On peut les amener chacun par leur chemin à un diplôme.
Au-delà de ça, on a l'impression qu'il y a une divergence de philosophie sur le but de l'université. Pour certains étudiants, dans des discours que l'on entend, le but de l'université, c'est le savoir, un savoir qui trouve une finalité pratique ou pas. On a l'impression que pour le gouvernement, pour le ministère, on est beaucoup plus dans des formations qui débouchent immédiatement sur du travail. Non pas que quelqu'un soit en faveur du chômage, mais il est parfois compliqué de savoir, lorsqu'on s'engage en histoire, en sociologie, dans différentes disciplines qui ne sont pas nécessairement professionnalisantes, ce que l'on va faire ensuite. Quelle est, vous, votre philosophie ? Est-ce que la fac, elle est là aussi pour permettre aux individus de faire leurs humanités, d'apprendre ?
Oui, bien sûr, vous vous imaginez bien que l'université, c'est créer le savoir, transmettre le savoir et veiller à l'insertion professionnelle par le savoir. Voilà. Une fois que, et évidemment aussi la culture scientifique et technologique plus large au sens de d'irrigation de la société. Ça, ce sont vraiment les missions de l'université. Donc, justement, là encore, il y avait une forme d'injonction paradoxale où on disait, vous devez d'un côté accueillir l'ensemble des bacheliers et dans le même temps, vous devez avoir des programmes qui vous permettent d'amener des étudiants vers le doctorat. Ça, c'est très compliqué parce que, évidemment, tous les bacheliers qui rentrent à l'université n'ont pas envie d'aller jusqu'au doctorat. Donc, ce système de briques qui font que l'étudiant, avec son enseignant, va pouvoir construire son parcours. Ça permet à celui qui a envie de faire de l'histoire, de faire de l'histoire et encore de l'histoire. Ça permet à celui qui veut faire de l'histoire mais ne souhaite pas s'engager dans un cycle long, de faire de l'histoire et puis d'avoir des stages et des modules plus professionnalisants. Et ça permet à celui qui ne sait pas au moment où il arrive, eh bien de tester et petit à petit de construire son parcours. C'est ça, la personnalisation.
Parlons un peu d'argent, Frédéric Vidal, puisqu'il est aussi question d'argent dans la crise de l'université, et tout d'abord du salaire et du salaire des enseignants. En 1984, un maître de conf gagnait 2,4 fois le SMIC lorsqu'il était embauché. Aujourd'hui, il gagne 1,6 fois le SMIC, et j'ai même trouvé un graphique très rigolo qui montre que si l'on continue à voir décroître le salaire des maîtres de conf, en 2080, ils ne seront plus payés du tout. Est-ce que cette chute, parce que c'est une chute, elle est sensible sur le graphique, est-ce que cette chute va se poursuivre ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Bon, d'abord, c'est intéressant cette courbe que vous avez bien voulu partager avec moi. Je serais curieuse de voir comment elle a été construite scientifiquement, mais c'est un autre sujet.
On a relié les points entre eux.
Oui,
j'imagine. Et il y a une nette inflexion à partir de 2008.
Voilà, absolument. Vous n'en êtes pas responsable. Ça, par contre, évidemment, je peux vous le confirmer. Il y a une nette inflexion à partir de 2008 globalement. Et effectivement, je crois que les budgets de l'enseignement supérieur n'ont pas été à la hauteur de ce qui était nécessaire. C'est bien pour ça que, dans le contexte actuel, sur le budget 2018, le budget du ministère a été augmenté de plus de 700 millions d'euros, avec 234 millions d'euros spécifiquement pour l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que j'ai rajouté encore 65 millions d'euros spécifiquement dédié à cette réforme et à ce meilleur accueil dans le premier cycle. Donc pour financer des postes d'enseignants-chercheurs, parce qu'évidemment quand on dit plus de places pour les étudiants, ça veut dire plus de profs face aux étudiants, pour financer aussi des heures complémentaires là où c'était nécessaire, financer l'ouverture d'antennes, reconnaître l'engagement et reconnaître le travail supplémentaire qui va être généré par le fait que il va falloir regarder les dossiers, il va falloir discuter avec les étudiants pour mettre en place ces parcours. Donc voilà, je sais que ce n'est jamais suffisant, mais évidemment on y travaille. Et puis il y a
je vais juste vous embêter, Frédéric Vidal, là-dessus, parce que les grandes masses, c'est toujours compliqué de s'y reconnaître, sachant encore une fois que votre budget est énorme, il est de 13 milliards d'euros, c'est insuffisant, mais les masses du coup sont compliquées à comprendre. Concrètement, pour un enseignant, quelle est sa perspective d'augmentation de salaire ?
Alors, la perspective d'augmentation de salaire, elle dépend du point d'indice et elle dépend de la fonction publique. Donc, c'est global, puisque les enseignants...
Pourtant, ça décroche depuis 2008.
Alors... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur que se décident les salaires des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires Et donc là, évidemment, moi, le budget que je peux mettre à disposition des établissements, c'est un budget qui, par exemple, pour la première fois cette année, permet de compenser le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire que les universités, comme elles reçoivent cet argent qui permet d'assurer la masse salariale, peuvent récupérer des marges de manœuvre pour faire autre chose. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux faire.
Si vous êtes tributaire du point d'indice, à quoi sert l'autonomie
on est fonctionnaire.
À quoi sert l'autonomie des universités?
Ben, l'autonomie des universités, elle a pour vocation de donner aux universités la capacité de choisir leur offre de formation, de choisir leurs spécificités en recherche, d'organiser et de gérer le budget qui est confié par l'État. Mais les enseignants-chercheurs restent évidemment des fonctionnaires d'État.
On continue à parler d'argent. Un étudiant en France coûte entre 8 000 et 10 000 euros environ.
C'est du coût complet, oui.
Aux États-Unis, il coûte 10 fois plus. Avec un problème de financement évident, puisque les individus s'endettent pour leur vie entière, dans des proportions donc complètement absurdes. Mais il y a un écart important entre le coût de l'étudiant en France et le coût de l'étudiant aux États-Unis. Vous le savez, vous êtes une chercheuse, vous avez voyagé partout dans le monde, et on est frappé par la paupérisation des facs françaises. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez proposer, même si, évidemment, vous n'êtes là que depuis quelques mois, Frédéric Vidal?
Alors, Je crois que, enfin, on peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Nous sommes en France, et évidemment, j'en suis extrêmement fière, un pays qui a choisi d'avoir un enseignement libre et gratuit. Voilà. Et donc jamais le fait de ne pas avoir de moyens ne doit empêcher quelqu'un de faire des études ou de réussir. Alors. Quand on compare évidemment ce qui se passe en termes de droits d'inscription aux États-Unis, quand on calcule le coût d'un étudiant en France, c'est un calcul qui se fait au coût complet, c'est-à-dire que on calcule aussi la vétusté du bâtiment, le fait qu'il faille faire un certain nombre de travaux.
Ce qui fait partie des vrais problèmes, puisque par exemple, à Toulouse Mirail, on a de vraies inquiétudes. À Paris 8, on explique que le bâtiment est extrêmement vétuste. On sait qu'il y a des facs qui ne sont pas chauffées. Bref, c'est quand même un peu la misère.
Oui, et l'idée, c'est une fois de plus que par rapport à l'argent qui est transféré aux universités et qui, j'en conviens, hein, pourrait encore augmenter. Ça, c'est vraiment pas un sujet. On a à côté des plans campus, on a à côté des contrats de plan État-région, on a des choses qui sont faites spécifiquement pour rénover les bâtiments. Et ça explique d'ailleurs une partie de la colère des personnels de Toulouse, hein, qu'évidemment j'entends complètement, qui disent on avait rénové les bâtiments, on commençait à récupérer une image positive dans la population, on avait de nouveau plus de jeunes qui s'intéressaient à nos formations, et puis là, tout a été cassé, tout a été détruit. C'est très très dur aussi quand vous êtes tellement impliqué dans votre travail, quand vous êtes tellement au service de cette connaissance, au service de ces étudiants, y compris en étant mal payé. C'est tellement compliqué de voir tout détruit.
Et évidemment, le vandalisme, c'est une question, mais sans qu'il y ait le vandalisme, Frédéric Vidal, moi, je suis toujours frappé par la pauvreté des bibliothèques universitaires. Et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le vandalisme. La fac est sous-dotée et en sciences humaines, c'est particulièrement criant. Vous avez annoncé des rallonges budgétaires, alors c'est compliqué, 230 millions, on a parlé d'un milliard, mais en fait, ces chiffres retraités, à l'échelle de la fac, malheureusement, ils ne donnent que des sommes qui sont bien plus modestes.
Alors, il y a un vrai travail qui est fait, en tout cas au niveau des bibliothèques, pour travailler sur l'open science, hein, la science ouverte, de manière à ce que, justement, on n'ait plus cette prise en otage par un certain nombre d'éditeurs et qu'on soit en capacité d'avoir un accès beaucoup plus libre et beaucoup plus facile à la fois aux ouvrages et aux ouvrages sous forme papier ou sous forme numérique. Les bibliothèques universitaires, elles se transforment, elles deviennent aussi des lieux où on travaille ensemble. Il y a un vrai travail qui est fait par les documentalistes dans les universités de manière à adapter l'offre avec la demande des étudiants, avec leur nouvelle façon de travailler, avec leur envie de travailler en petits groupes, en mode projet, etc. Donc là aussi, hein, je suis tout à fait consciente, mais l'idée, c'est que vraiment, en ce qui concerne l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, il faut qu'on redonne suffisamment de marge de manœuvre pour que les gens retrouvent aussi le plaisir de travailler.
Le président de la République a dit hier qu'il n'y aurait pas d'examen en chocolat. C'est dommage, notamment pour ceux qui aiment le chocolat. Frédéric Vidal, cela signifie qu'il n'est pas possible d'aménager les examens pour les étudiants qui aujourd'hui sont dans des facs bloqués. Comment vous allez vous y prendre concrètement si les blocages se poursuivent ?
Alors, là, peut-être que là aussi, il faut rappeler un certain nombre de choses. Les examens se tiendront, c'est en tout cas ce que me disent les présidents d'université, et évidemment, s'il faut les aménager pour qu'ils se tiennent, les délocaliser, les faire ailleurs, trouver de nouvelles formes d'évaluation, ça, je fais tout à fait confiance à mes collègues pour trouver la façon dont ils peuvent s'organiser. Mais quoi qu'il en soit, cette année universitaire, elle doit avoir la même valeur que l'année universitaire d'avant et que l'année universitaire prochaine. Quand on entend...
On a déjà délocalisé des examens ?
Bien sûr, oui, parce que vous savez bien que dans une université, il y a plusieurs locaux. Et quand vous avez des universités perturbées et vous avez un amphi qui est bloqué ou un bâtiment qui est bloqué, vous pouvez parfaitement faire les examens à 200 mètres. Et en général, personne ne se rend compte qu'il y a un amphi bloqué. Vous savez, dans les grands campus... on n'est pas.
Mais si d'aventure c'était la totalité de la zone qui était bloquée, Frédéric Vidal, est-ce que ça n'est pas possible de donner, par exemple, 10 à tous les étudiants comme ils le demandent ?
Alors, justement, il faut quand même se rappeler que le dimanche 1er avril, et il se trouve que c'était aussi le dimanche de Pâques, un poisson d'avril a circulé comme quoi tous les étudiants auraient 18. Et évidemment...
18, c'est peut-être un peu beaucoup, mais...
Voilà. Mais même 10, c'est un peu beaucoup. On ne va pas à l'université pour avoir des notes, on y va pour apprendre des choses. Et les notes ne font que vérifier le fait que vous avez acquis ou pas la connaissance de l'année dont vous allez avoir besoin pour l'année suivante. Donc, sur la base de ce poisson d'avril, qui a d'un goût douteux à mon sens, mais qui a peut-être fait rire beaucoup de monde. Effectivement, ça s'est répandu dans différentes assemblées générales qui demandent 10, 12, 15, ça varie, ça fluctue. C'est toute la créativité.
Aujourd'hui, quelles sont les concessions que vous pouvez faire, Frédéric Vidal, puisque malgré tout, les facs sont bloquées. Alors, je ne vais pas faire la liste. L'université de Rouen, à Marseille, Saint-Charles, la fac est bloquée depuis jeudi. Le HESS est bloqué jusqu'à vendredi, etc., etc. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui lâcher du lest pour que ces blocages cessent ?
Alors, une fois de plus, je vous rappelle le calendrier. Nous avons commencé à discuter de cette réforme le 17 juillet dernier. Nous avons passé 3 mois de concertation. La majorité des représentants des personnels et des représentants des étudiants ont approuvé le texte qui ensuite est donc parti au Parlement. Donc le texte de loi en tant que tel, il ne changera pas. Mais par contre, évidemment, on continue à travailler. Il y a les arrêtés de licence et donc je suppose que cette désinformation sur on n'aura plus le droit de redoubler, etc.
Mais ça vient de là. C'est uniquement de la désinformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
mais
de
enfin,
crainte
qui soit des craintes
fondées.
Comment vous pouvez imaginer que je vais empêcher les étudiants de redoubler ? Enfin, vous voyez vous-même, je pense, si vous avez la moindre connaissance de ce qui se passe dans une université, imaginez qu'on empêche un étudiant de redoubler. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est de la désinformation, parce que vraiment, je ne vois pas d'où ça sort. Donc, actuellement, il y a des représentants des personnels, des représentants des étudiants qui sont au travail, qui travaillent sur les arrêtés, qui vont être présentés au CNESER à la fin du mois de mai. On travaille sur la reconnaissance de l'engagement dans la pédagogie des enseignants-chercheurs parce que ça suffit que seule la recherche soit prise en compte dans les avancements de carrière. On travaille sur l'indemnitaire 2019 et on a des organisations qui refusent de siéger dans ces concertations.
Donc s'il n'y avait pas de fake news et d'agitateurs professionnels, Frédéric Vidal, il n'y aurait pas de grève ou pas de blocage de fac ?
Bah, écoutez, entre le 17 juillet et le 8 mars où la loi a été promulguée, vous avez bien vu qu'on n'était pas dans cette configuration. Donc là, le joli mois de mai approche.
Vous voulez dire que c'est un agenda politique ?
Mais c'est un agenda politique et je crois que la démonstration en est faite quand on voit que, effectivement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les étudiants à Tolbiac sont rejoints par des cheminots ou que, dans une manifestation de cheminots, des étudiants viennent soutenir. Ou on est en train d'essayer d'organiser, à mon avis, de manière... C'est Monsieur Ruffin qui a parlé de manifestation pot-au-feu.
François Ruffin,
voilà.
Parce qu'on a un Ruffin aussi sur France Culture.
Donc, Monsieur François Ruffin qui a parlé de préparer une manifestation pot-au-feu. Donc voilà, je pense que vous avez la réponse.
L'appel des 400 profs, parce que ces profs-là, ils témoignent quand même d'une véritable inquiétude. On a vu que Parcoursup, c'était compliqué à mettre en place. Georges
Ça,
Haddad,
le
président de la Sorbonne, était à ce même micro il y a une semaine. Il expliquait que 3 décimales après la virgule, et vous êtes une scientifique aussi, c'était pas facile pour classer les étudiants. Là, qu'est-ce que vous leur répondez à ces profs ?
Alors ça, effectivement, ce que je leur réponds, c'est que évidemment, je comprends leurs inquiétudes, je comprends que c'est plus de travail. Je suis aussi persuadée que pour la très grande majorité des enseignants, des enseignants-chercheurs, des personnels, plus de travail pour mieux accompagner les étudiants, c'est possible à condition que ce soit reconnu et rémunéré. C'est pour ça qu'il y a eu d'ores et déjà... On a transféré aux universités 8 millions d'euros spécifiquement dédiés à ce nouveau processus d'accueil et d'accompagnement des bacheliers. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus de travail, c'est aussi de l'indemnitaire en plus, et c'est ça tout l'objet des négociations, parce que je veux qu'au-delà de l'indemnitaire, il puisse y avoir une reconnaissance dans les carrières.
Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être amendable dans cette manière de classer les étudiants au niveau de Parcoursup, APB avec toute une série de défauts, on ne va pas revenir là-dessus, mais on voit bien quand même que là, on a l'utilisation d'algorithmes locaux, on voit bien qu'on a cette fameuse lettre de motivation, on en a parlé, elle fait débat. Est-ce que vous ne pouvez pas, encore une fois, lâcher du lest là-dessus ?
Non mais attendez, il ne faut pas confondre les choses. Il y a ce que dit la loi, et ce que dit la loi, c'est très simple, il faut accompagner les étudiants, et il faut leur proposer des parcours personnalisés. Et effectivement, Parcoursup, ça n'est jamais qu'une plateforme. Et sur cette plateforme-là, il y a un comité scientifique et éthique. Si on estime que, j'entendais, 1500 mots, ça suffit pas pour l'aide de motivation, eh ben, on en mettra plus. Alors, vraiment, ça n'est pas un sujet. Et ça n'en a jamais été un.
La négociation est faite de détails.
Oui, mais... ce qui est demandé, c'est le retrait de la loi. C'est pas qu'on travaille pour améliorer la plateforme. Et évidemment, améliorer la plateforme, on le fera en continu. Et ça, je m'y suis engagée. Donc, c'est pas un sujet pour moi non plus.
L'attitude des lycéens. Pour l'instant, les lycéens semblent peu mobilisés, à l'exception de quelques établissements. Est-ce que ça n'est pas une inquiétude supplémentaire pour le gouvernement, Frédéric Vidal ?
Mais les lycéens, en fait, ils ont déjà vu cette première phase. Ils ont vu comme ils étaient plus accompagnés. D'ailleurs, je remercie vraiment le travail des proviseurs et des profs principaux qui a été fabuleux. Ils ont vu qu'ils avaient du temps avec leur prof principal, puisqu'ils avaient maintenant 2 profs principaux par classe. Ils ont vu qu'il y avait plus d'informations sur la plateforme Parcoursup que ce qu'il y avait dans APB. Ceux qui avaient des frères, des sœurs, des cousins qui étaient passés par APB se sont bien rendus compte qu'ils avaient plus d'informations, que c'était de l'information donnée à tous. On n'était plus obligé d'aller la chercher dans des endroits obscurs. Donc, évidemment, les lycéens ont senti cette vraie bienveillance et ce véritable accompagnement de leurs profs. Et ils attendent la même chose maintenant des enseignants du supérieur. Et évidemment, moi j'en reste convaincue, la très grande majorité des enseignants du supérieur seront là pour les lycéens.
Comment vous voyez-vous l'avenir à court terme, Frédéric Vidal ? Est-ce que ces différents blocages de fac qui n'ont pas l'air de cesser, sauf quand la fac est évacuée, évidemment, elle est bloquée d'une autre manière dans ces conditions. Comment envisagez-vous les choses ? Est-ce que vous jouez sur les vacances de Pâques, par exemple ?
Il n'y a pas de vacances de Pâques particulièrement dans les universités. On va rentrer en période de révision et en période d'examen. Et moi, je veillerai à être aux côtés des présidents d'université pour que les choses se passent le mieux possible, avec le plus de sérénité possible, et qu'une fois de plus, les diplômes conservent leur valeur.
Merci beaucoup,
merci
Frédéric Vidal, d'avoir été avec nous, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de nous avoir exposer votre point de vue sur cette situation des universités,